Bonjour à tous, bienvenue à votre Ciné Brunch, votre magazine de cinéma qui s'assume et qui n'a pas peur de dîner ou de déjeuner. Mais ça, c'est toute une histoire, hein? Voilà, comme chaque semaine, en compagnie de mes collègues Mélina Lopez-Nadeau et François Genet. Bonjour.
Bonjour.
Et ben voilà, hein? On est rendu à une autre semaine, un autre Ciné Brunch commence pour vous. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser qu'il faudrait peut-être refaire notre promo là, qui parle de souffleuse, qui
c'est vrai,
un peu passé date. Donc, parce que bon, la neige, je crois qu'on l'a perdue pour vrai cette fois-ci.
On ne sait jamais.
Soyons pas pessimistes. Donc voilà, la semaine dernière, on vous a parlé énormément de super-héros. Hein. On a parlé de notamment la musique de super-héros avec Julie Desmarais, qui reviendra d'ailleurs dans quelques semaines pour la suite de ce bloc sur la musique de films de super-héros. Et maintenant, cette semaine, bon, on a parlé de super-héros la semaine dernière, cette semaine, c'est le moment où on va critiquer pour vous le film Avengers Endgame, ou en anglais Avengers Phase Finale, donc la phase finale, hein, de la saga Avengers jusqu'à maintenant. Et on va faire une critique commune de tout ça. On a tous vu le film. Et c'est une tradition à Cinébrunch quand il y a des gros Marvel comme ça qui sortent d'en faire une critique commune. Tout ça dans 4-5 minutes, bientôt, là,
c'est
tout
précis,
de suite.
C'est
précis,
ça,
hein, quelque chose comme ça. Ça dépend à quel point je vais continuer de parler comme ça longtemps. sinon, durant l'émission, on va critiquer pour vous deux documentaires québécois. On est vraiment parti là-dessus, c'est incroyable. Donc, Mélina, tu as vu le dernier documentaire québécois de...
Le vieillage et l'espérance.
C'est ça, voilà, du réalisateur dont j'ai oublié le nom.
Fernand Dansereau.
C'est ça, qui joue dedans, d'ailleurs.
Oui, et, c'est un documentaire, là. C'est, il participe, là.
Oui,
dire,
il participe,
c'est pas
joué,
ça. Pas...
Il joue lui-même.
Il joue sa propre vie.
C'est ça.
Et de mon côté, j'ai vu pour vous, et je critiquerai en deuxième demi-heure de l'émission, le film Lepage au soleil à l'origine de Kanata, donc qui traite de la pièce Kanata avec la polémique qui entoure ça. Mm-hmm. Et ça nous donnera l'occasion de discuter un peu plus de ces sujets-là d'appropriation culturelle au cinéma. Puis assez... je vais trouver un moyen d'amener vers ça une discussion, un débat qui sera sans doute plaire ou déplaire à de nombreux auditeurs, puisque c'est un sujet encore de l'heure, voilà. Donc, mais sinon, sans plus tarder, on va jaser. Oui, alors, ben, tiens, François, t'as l'air plein de motivation.
Ben oui, ben j'ai essayé de dormir cette fin de semaine parce qu'on a entendu que moi, j'ai pas écouté, j'ai pas été voir d'autres films, j'ai essayé de dormir à la place. Finalement, ça n'a pas réussi, mais quand même, c'était bien joué. Non, mais au côté nouvelle, moi, c'est Quentin Tarantino qui a finalement réussi à finir son film pour être à Cannes cette année.
Mais c'est une bonne nouvelle.
Et oui, tout à fait. Et donc, Once Upon a Time in Hollywood, parce qu'il y a un trop petit point, c'est pour ça que j'attends avant de finir le titre du film. Là. Mm-hmm. J'ai l'impression que quand ça va gagner des prix, ça va être drôle, ça moyen temps, tout le monde va attendre le trop petit point. Là.
Oui.
On s'entend que ça va être magique, mais il y a beaucoup de grands réalisateurs aussi présents en liste donc, cette année à Cannes, donc ça va être vraiment intéressant. Et il a réussi vraiment à finir ça, il a passé quasiment les 4 derniers mois à essayer de finir à temps pour Cannes. Donc je sens que ça va être vraiment une belle saison de festival qui s'en vient.
Absolument.
J'ai hâte de voir ce film-là, genre, je sais pas, je me souviens plus qui est dedans, mais je me souviens que j'avais regardé.
Leonardo, je crois.
Ah, ou Brad Pitt, ils sont pareils ces deux hommes, j'ai toujours dit.
Interchangeable.
C'est Leonardo DiCaprio qui est là, tout à fait.
Voilà.
En fait, on vous l'annonce en primeur, le prochain quiz, ça va être Brad ou Leonardo, qui a interprété ce rôle.
Ça serait écœurant, ça. Si Vicky Langlois nous écoute, voilà le sujet de son prochain quiz.
Oui.
Donc, non, c'est ça. Et puis, ben, je suis curieux parce que Tarantino, il était censé. Bon, en tout cas, il y avait une rumeur qu'il allait réaliser le prochain film de Star Trek. On était tous ébahis devant cette drôle de nouvelle.
Ouais.
J'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit là-dessus. J'ai l'impression que c'est peut-être mort.
Ben, peut-être que là, maintenant qu'il a fini son montage, montage.
Il va enfin pouvoir se consacrer à son projet, l'ultime projet de sa carrière.
Clairement.
Excellent. Merci beaucoup, François.
Ou à nous donner des entrevues pour qu'on puisse avoir l'information aussi.
Oui, oui, oui. Faut pas trop compter là-dessus, j'ai l'impression. Mélina.
Oui, en fait, moi, je voulais vous parler de Star Wars, hein, parce qu'on sait que l'épisode 9 va sortir en décembre, donc ça s'en vient quand même assez rapidement. L'épisode 9 qui s'intitule L'Ascension de Skywalker. Et là, J.J. Abrams a assuré les fans que la princesse Léa ferait bel et bien partie du film et sans aucun CGI, donc sans être générée par ordinateur.
Donc, ce sera peut-être encore sa sœur qui avait...
Non, en fait, ils ont décidé qu'elle allait utiliser du visuel supplémentaire qui avait été tourné lors de l'épisode 7, donc qui n'avait pas été pris dans le film. Et avec ça, réussir à... Ils ont comme adapté, j'imagine, le scénario avec le footage qu'il y avait déjà.
Peut-être bien qu'il fasse ça dans le dernier, parce qu'il me semble qu'il en manquait un petit peu.
Ben, c'est ça. Et on dit qu'il y a même une scène où c'est la princesse Léa et sa fille dans la vraie vie, là, dont j'oublie le nom, qui a un rôle aussi dans Star Wars. Ils ont une scène ensemble, donc j'imagine que ça doit être aussi particulier pour sa fille de... C'est particulier, hein?
C'est particulier.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui après la mort des gens?
Effectivement, c'est ce sera d'ailleurs le sujet de ta chronique tout à l'heure, de ta critique.
Oui, tout à fait.
Mais puis Chewbacca est mort aussi.
L'acteur
vrai?
Qui faisait
oui.
Oh non!
Exactement.
J'étais même pas au courant. Ah oui?
Ben oui, donc en parlant de mort de Star Wars, tout à fait.
C'est totalement triste.
Ouais. Alors c'est lui qui avait fait Chewbacca jusqu'en 2015.
Il a fait oui.
Et là, il avait été remplacé à cause de sa santé et là, il s'est éteint cette semaine. Donc.
Ah, mais c'est triste. Il a fait tous les films depuis le début jusqu'à l'avant-dernier.
Jusqu'à 2015, oui, exactement.
Aïe, aïe, aïe. Bon, mais quel dommage.
Il a son honneur.
Moi, je pense pas avoir la capacité gutturale de le faire.
Mon doux, je pense.
François,
que...
non?
Et ça prendrait des bonnes pastilles.
Oui, bon, on va laisser ça pour d'autres. André-Philippe Gagnon, peut-être, si tu nous écoutes. Alors voilà. Voilà, excellent. Et de mon côté, je vais vous parler en fait de la saga qui entoure le film sur le hérisson bleu Sonic the Hedgehog, qui est basé sur le célèbre personnage de Sega, donc le jeu vidéo. La saga se poursuit, mais plutôt
la
en plus.
La saga
bien.
Ou la Sega?
La Sega, c'est ça, la Sega se poursuit. Donc, le film qui mettra en vedette nul autre que Jim Carrey dans le rôle du méchant docteur Ivo Robotnik, alias Eggman, dont, en fait, oui, mais j'ai une bande-annonce, en fait, on écoute ça.
Meow.
Ah, come on. Donc, bon, OK, j'ai pas mis très longtemps parce que c'est en anglais. Oui, donc, une saga un peu particulière entourant le film sur Sonic. Les fans, ou en tout cas les puristes d'une franchise de jeux vidéo généralement, comme pour Sonic, ont tendance à avoir une certaine crainte quand on veut faire une adaptation télévisuelle ou cinématographique de leur jeu vidéo favori. C'est assez compréhensible parce qu'en général, c'est très mauvais quand c'est fait. Donc, référence à un épisode précédent de Cinebrunch où on parlait notamment de Mario.
Oui.
Cette fois-ci, en fait, la bande-annonce qu'on vient d'entendre a récolté sur YouTube presque le double de pouces en bas que de likes.
Wow!
Donc,
cool!
C'est ça. Et là, évidemment, les plaintes, les critiques sur les réseaux sociaux pleuvaient. Le réalisateur du film, Jeff Fowler, a finalement répondu aux critiques sur Twitter en remerciant les commentaires et les critiques. Il dit... Le message est clair et précis, vous n'aimez pas le design et vous voulez des changements. J'aurais dû prendre une voix un peu anglaise, là, mais en tout cas. Donc, ça va se faire. Paramount et Sega ont une volonté absolue de faire de ce personnage le meilleur qu'il peut être. Donc, une traduction à la volée comme ça. Sinon, et de son côté, Yuki Naka, que personne ne connaît, mais qui est en fait l'un des principaux développeurs du jeu Sonic dans les années 90, lui a aussi réagi sur Twitter. Il a dit « La puissance des fans de Sonic est incroyable. C'est une bonne chose que de choisir d'aller dans la bonne direction. Merci beaucoup d'aimer Sonic. » Donc, voilà, un message d'espoir. d'un des créateurs, développeurs du jeu. On peut saluer quand même une volonté de plaire à ses fans du réalisateur.
C'est ça qui est intéressant quand même, parce que là, 30 ans, ça se faisait pas ça.
Non, on n'aurait pas... Il y a 30 ans, il n'y aurait pas eu de réseaux sociaux.
C'est
donc,
ça.
Les gens
donc, ça aurait juste été un flop,
été influencés.
En fait.
Peut-être pas, en fait. C'est ça le pire. Hein.
Est-ce qu'ils vont recommencer? Ils vont-tu recommencer?
À mon avis, ils vont juste refaire tout ce qui est CGI de la créature comme telle. C'est vraiment, de ce que j'ai compris, c'est le personnage de Sonic qui n'aime pas. Donc là, on a vu comme les yeux plus gros, plus petits. Vous pourrez aller voir tout ça sur les réseaux sociaux ou ailleurs.
Inquiétez-vous pas, si jamais vous aimez pas le film, ça va passer vite.
C'est exactement... Oh!
Voilà, il va vite. Exactement, comme une fusée.
C'est incroyable. On n'a pas vu s'il y avait le petit renard, par contre. J'ai l'impression qu'il garde ça pour une suite.
Oui.
Sinon, on peut saluer, donc c'est ça, le manque, en fait, l'absence de rigidité du côté de la production. Moi, je trouve que c'est très bien. Et le film est attendu pour novembre, mais bon, avec tout ce qui se passe là, ça pourrait peut-être être décalé. On ne sait jamais. Donc voilà, ça suffit le blabla, là. Voici votre Cinébrunch. Voilà, vous attendiez ce moment depuis sans doute que le film est à l'affiche ou qu'il a été annoncé. Je parle bien du film Avengers The Endgame ou Avengers La Phase Finale. C'est un film qui donc conclut jusqu'à maintenant toute ce qu'on appelle le Marvel Cinematic Universe. Quoi qu'il y a d'autres films annoncés puis qu'il va y avoir quand même une autre phase après ça, mais le gros de ce qu'on a vu depuis quoi, 10 ans?
10 ans, en fait, qu'on a débuté la troisième phase. Mais c'est l'avant-dernier de la troisième phase, en fait. Il y en a un autre qui s'en vient.
OK. Est-ce que c'est Spider-Man?
Oui, exactement.
OK, ben, Spider-Man.
Donc, on n'a pas clos encore la troisième phase, mais c'est ça, on est quand même dans le 22e film. Donc, c'est ça, continue.
Mais merci. Non, mais c'est parce que je sais que tu meurs d'envie de faire le
synopsis du film. Non, mais je voulais juste rectifier les faits.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aviser tout de suite nos auditeurs de comment on va procéder pour cette critique-là, parce que c'est une critique commune et on est conscient qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés par ce film-là, mais qui ne l'ont pas vu encore. Donc, c'est certain qu'il va y avoir, de ce que moi je comprends, une portion qui sera ce qu'on appelle en anglais « spoiler-free », donc sans divulgachage. Il y aura peut-être quelques divulgachages vers la fin, on va vous prévenir avant, évidemment. Ça vous permettra de...
De fermer les yeux.
Fermer les yeux, non, les oreilles. De vous boucher les oreilles, hein? Et pendant quelques minutes. Ouais. Sinon, au niveau du synopsis du film, je pense que le synopsis, si je ne me trompe, dévoile
absolument
rien sur ce film-là, mais un peu sur le film précédent. Donc, si vous n'avez pas vu, parce que c'est la suite, donc direct, c'est la deuxième partie du gros film Avengers qui a été commencé l'année dernière. Donc voilà, je parle, Mina me regarde à l'ordre que je finisse de parler. Donc Mina, d'entrée de jeu, si vous n'avez pas vu le film Infinite Wars, donc peut-être que ce qu'on va
mais
dire
en
là
fait,
va
non,
vous dévoiler des choses.
Mais moi, j'ai pris le synopsis de la maison du cinéma et on reste extrêmement vague, donc ça va comme suit.
Bon.
Point d'orgue de 22 films interconnectés, le quatrième volet de la saga Avengers amènera le public à assister au tournant de ce voyage épique. Nos super-héros vont vraiment comprendre à quel point cette réalité est fragile et constateront les sacrifices qui doivent être faits pour la maintenir. Donc, vous voyez, c'est ça,
c'est
en fait.
Effectivement
c'est
fou, très vague.
Hein? Donc, c'est un texte de français que j'ai fait pour remplir du texte.
C'est ça, tu veux mettre des mots, mais...
C'est ça. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça divulgue rien, mais on n'aura quand même pas le choix d'en parler un peu du premier film, parce que c'est bon, sinon on ne comprendra rien de ce qui se passe.
Oui, ben, du deuxième film.
Du troisième,
film.
En fait.
Oui.
Fait que c'est mêlant, tout
c'est
ça.
C'est mêlant,
parce
les
chiffres. Il y a 4 Avengers.
C'est ça, ben...
Il y a le vieux.
C'est ça, c'est le quatrième, en fait.
Ouais.
C'est le quatrième. Mais pour moi, le premier, quand je dis le premier, c'est la première partie, donc le dernier
donc,
avant aujourd'hui.
Wars.
C'est
oui,
c'est
ça.
Clair.
Bon, le chant qui a des auditeurs qui viennent de saigner sur la radio.
Alors, là, il y en a un à l'affiche maintenant, c'est celui dont on critique aujourd'hui, donc Endgame, en français, phase finale, qui est la suite, en fait, même la deuxième partie d'un gros film englobé qui comprend donc ce qui est à l'affiche maintenant, et la première partie qui était l'année dernière, en 2018, maudit que je suis pas clair, le film Infinity Wars.
Ouais.
Donc, voilà, la guerre de l'infini en français. OK, alors, mais là, la question, c'est comment on va critiquer un film pareil? Parce que là, le synopsis dit pas grand-chose sur l'histoire.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Je pense qu'on a quand même pas le choix d'entrer un petit peu plus dans le crunchy de la chose. Si vous avez pas vu Infinite Wars, la guerre de l'infini de l'année dernière, ben, en tout cas, tant pis pour vous, c'est ça, on peut pas ne pas parler des pierres de l'infini, on peut pas ne pas parler de Thanos, qui sont les personnages... C'est Talos ou Thanos?
Thanos,
c'est ça. Il y a un jeu qui s'appelle Talos, voilà. Donc, on peut pas faire autrement que d'en parler, parce que disons que le film précédent se terminait d'une manière totalement catastrophique. Ouais. Là, je sais pas jusqu'où je dois révéler, mais en gros, cette catastrophe-là, ben le but du dernier film qui est actuellement à l'affiche, c'est de faire quelque chose par rapport à ça.
Oui, tout à fait. Ben moi, parce que moi, j'avais pas vu le Infinity Wars, là, Avengers, oui. Et là, on m'a tout regardé en disant, mon oui. Dieu, va le voir.
Ben oui, sinon, tu vas absolument rien comprendre.
Tu vas rien comprendre. Oui, oui. Et là, j'étais comme, mais non, mais c'est correct, je vais comprendre quand même. Puis là, on m'a regardé avec des gros yeux, puis là, j'ai pas aimé ça.
Non.
Puis là, j'ai écouté Infinity Wars et j'ai compris que, clairement...
Il fallait que tu le vois.
Il fallait que je le voie. Donc, allez voir Infinity Wars.
Oui, il est sur Netflix en ce moment. Tout à fait. Si vous avez Netflix, donc c'est une façon de le voir.
Allez le voir pour vrai, parce que sinon, vous n'allez pas apprécier vraiment le film.
À mon avis, vous n'allez rien comprendre, parce qu'il n'y a que des références, il n'y a que une continuité, puis les enjeux disparaissent. Puis les personnages aussi, le premier nous les présentait un peu plus.
Ouais. On peut prendre ça quasiment comme un gros film.
C'est ça. Presque. Oui. Moi, je vois ça comme un gros film. Il y a plus de personnages dans le deuxième que dans le premier, mais dans tous les cas, voilà, un gros film. Donc, bon, comment on se lance? Est-ce que vous voulez qu'on commence par les bons coups, les moins bons coups, par ce qu'on en pense, voilà?
Oui, ben on peut y aller avec ça. Ben on peut y aller très vague, là, de façon générale. Ben moi, je pense pour vrai que c'est un film que c'est ce que les gens s'attendaient d'avoir.
Mm-hmm. Oui.
C'est un gros bonbon.
Un gros climax, là. Un gros,
c'est ça. Ouais. C'est exactement les coches à cocher. Il y avait les items que les fans voulaient avoir étaient là. Pas nécessairement dans le dénouement de l'histoire. Tu sais, je pense pas que c'était nécessairement facile de savoir ce qui allait se passer. Là. Donc, on n'est pas là-dedans dans quelque chose de prévisible.
C'est pas prévisible. Non, je suis d'accord avec toi.
C'est pas prévisible, mais c'est ce que les fans s'attendaient à voir.
Les explosions, le monde qu'ils voulaient voir était là, avait des rôles pour la plupart intéressants. Donc, leur petit moment de gloire, parce que c'est ça qui est dur dans un film avec autant de personnages.
Tout à fait.
C'est que tout le monde ait un peu son heure de gloire. Oui, je suis d'accord avec toi.
Ouais. Donc, pour ça, pour vrai, moi, je pense que les gens vont pas être déçus d'aller voir ça, les fans. Puis, de toute façon, les fans verront pas plus loin que ça. Ils vont juste dire « c'est bon ». Parce que c'est exactement la liste d'épiceries que j'aurais voulu avoir. Si on avait donné un mandat à Disney, ça aurait été exactement ce film-là. Puis je pense que à ce point de vue-là, c'est réussi.
C'est vrai, il y a toujours le petit comic relief, les explosions. L'action, tout ça.
Puis si vous voulez mon avis, la deuxième partie, donc le film qui est actuellement à l'affiche, est beaucoup plus drôle que l'autre. Moi, à mon goût personnel, je sens qu'on a vraiment mis le paquet. Et même, j'irais plus loin que ça, je dirais que Marvel, depuis 2 ans, a augmenté drastiquement la portion humoristique de ses films. Visiblement, on était dans le très humoristique avec le film, à mon goût, là, c'était très humoristique pour un film de ce type-là, avec Captain Marvel, qui est encore à l'affiche d'ailleurs en ce moment, ce qui permet aux gens qui ne l'ont pas vu de voir les deux la même journée et de trouver que les sièges du cinéma ne sont pas nécessairement confortables à long terme.
Non.
On en reparlera tout à l'heure de la durée du film, mais c'est ça. Donc, moi, j'ai trouvé, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé que ce film-là était très drôle. Très drôle.
Oui.
Beaucoup de moments drôles de différents personnages. Des choses qu'on ne s'attend pas du tout puis qui sont totalement absurdes, on s'amuse, là.
Oui. On est dans... Puis on sent qu'ils sont mis en ligne, là. Tu sais, ils ont fait genre... Oui. On se fait du fun.
C'est notre dernier, on met le paquet.
C'est comme si on était au bal des finissants, de dire « Man, je vais danser toutes les danses. I'm the queen of the night. » Tu comprends?
Ça m'est jamais arrivé, mais oui.
Oui, ah non? Bon, non. Je suis désolé pour les gens à mon bal.
C'est ça.
Mais c'est ça. Je pense que c'est ça, pour vrai.
Puis Mélina, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ben, en général...
Non, mais est-ce que tu as trouvé que ce film-là était plus drôle que l'autre, que les autres? Est-ce que ça t'a fait rire? Est-ce que tu as trouvé ça?
Oui, non, c'est sûr que c'est drôle, mais je veux dire, je pense que c'est comme François dit, la même recette qui est appliquée, c'est-à-dire, c'est un divertissement, là. C'est Marvel, c'est vraiment un gros divertissement. On essaie d'aller chercher le public le plus large possible en donnant à tout le monde différents trucs.
J'ai même l'impression que... Il est un peu moins accessible que Infinity War.
Ah oui, moi j'aurais dit l'inverse, tu vois.
Moi j'ai l'impression parce que c'était des bonbons pour les fans, tu sais. Il y a plein d'affaires là-dedans que j'étais comme c'est ce que les fans veulent avoir.
Il est donc plus accessible, non?
Ben non, parce que quelqu'un qui est moins.
Quelqu'un à l'externe, qui n'est
pas un gros fan de super-héros.
Ouais.
Le deuxième, Infinity Wars.
Beaucoup de références.
Il y a beaucoup de références. Infinity Wars, je trouve que c'est un bon film de super-héros. Puis que même si tu connais pas beaucoup les super-héros, tu vas triper quand même. Mm-hmm. Puis ils te les introduisent bien. Puis t'aimes ça, tu sais. L'autre, c'est tellement plein de référents que, man, si tu connais pas les super-héros, tu vas trouver le temps long.
Si t'as vu aucun des films précédents.
Ouais, c'est ça.
Je pense que tu vois, Mélina avait pas vu. Ben là, je veux pas te dévoiler, mais en tout cas, il y a un film que tu avais pas vu. Un des personnages qui apparaît seulement dans ce film-là, qui n'était pas dans le précédent. Et
faut connaître un peu quand même.
Ouais, c'est ça. Bon, tu veux que je dise c'est qui?
Non, mais je vois pas de qui tu parles, en fait.
En tout cas, je veux pas dévoiler quand même, ça serait triste. Oui. C'est, je pense que c'est un des seuls personnages qui n'était pas dans l'autre, donc je vais me taire. Mais dans tous les cas, c'est ça. C'est certain, mais ça n'empêche pas de... Si on en connaît quelques-uns, si on connaît les principaux...
Ouais, on passe quand même un bon temps. T'sais, si on en connaît quelques-uns, on passe un bon temps, mais on n'est peut-être pas capable de rentrer autant que les autres. T'sais, on sent qu'on a moins de fun que les autres. Puis je pense qu'Infinity Wars rejoint un plus grand public. C'est pour ça que je pense que vraiment, ils ont dit on s'en fout de rejoindre tout le monde. On veut plaire à nos fans. Puis that's it, that's
on
all.
On veut raconter,
peu importe ce qui arrive avec le restant. Puis la preuve, le box-office, je veux dire...
Ah oui, ça explose, ça explose totalement.
Les fans, c'est là. Puis je suis pas certain qu'il y a du monde qui sont allés le voir deux, trois fois.
Ça m'étonnerait pas. Si ça avait pas été trois heures, d'ailleurs, peut-être que ce serait l'autre sujet que j'aimerais parler avec vous. La durée de la production comme telle. J'ai vu beaucoup de gens sur Internet se plaindre parce que le film dure trois heures. Beaucoup de gens dire, faudrait ramener les entractes. Les gens se lèvent pour aller aux toilettes. Ça marche pas. Moi, je suis totalement contre l'entracte. Personnellement, je trouve que l'entracte, c'est la pire chose que tu peux mettre. Ça vient de briser ton rythme, ça vient de tout briser.
Mais même dans les spectacles, on commence à essayer.
Même les spectacles, on les enlève.
On commence à essayer d'enlever ça.
Les gens s'en vont, on veut pas.
On perd le rythme.
Même au Kino Show, on l'enlève.
Tout à fait.
M'a-t-on dit.
Oui.
Ce que j'en sais, moi. mais non, c'est ça. Et le film est effectivement long, on va se le dire. Le 3 heures, c'est long. Le précédent faisait 2h30, 36, je sais pas trop. Donc, on était quand même dans le long. Ouais. Mais là, 3 heures pour un film. Disons,
mais c'est bien balancé. Fait que je pense que ça passe bien à ce niveau-là.
Ben, c'est ça, je voulais savoir. Comment, est-ce que vous avez trouvé que le film s'étirait par cette longueur-là ou pas du tout?
Mon doux. C'est difficile à dire. Je pense que l'histoire est là puis elle marche. T'sais. Est-ce que l'histoire aurait pu être raccourcie un peu? Peut-être. Mais en même temps, man, c'est le dernier puis on dit comme... Je m'en fous. Mm-hmm. J'ai vraiment le côté de dire... J'ai vraiment l'impression qu'ils ont dit que c'est notre dernier, mais on met tout ce qu'on a puis on va le faire toffer plus longtemps. Oui, il aurait pu raccourcir ça. Mais Colin, on aurait perdu des moments que là, on a la possibilité de voir. Je pense que les fans, ça leur dérangeait pas tant que ça. Les vrais, les diehard.
C'est sûr que non. Mais puis moi, honnêtement...
Puis on a 15 minutes de crédit là-dedans. Fait que... Peut-être pas 15 minutes, mais on a beaucoup.
Bon,
on a quand même...
6-7, là. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé le 3 heures, outre l'inconfort d'être assis 3 heures.
C'est ça.
Je te dirais, ça s'arrête là. Quand on est dans une salle avec quand même bondé de gens, surtout quand on y va les premières semaines, il y a du monde dans les salles. Des fois, on a des gens autour de nous, puis on peut pas trop s'écarter les jambes, puis les à-coups-de-bras, c'est triste, mais il y en a un de chaque côté, mais... S'il y en avait deux de chaque côté, ça serait parfait. Mais il y en a juste un de chaque côté. À part l'inconfort physique, moi, j'ai pas trouvé que ce film-là s'étirait. Mélina, toi...
Ben, comme j'ai dit tantôt, je pense que c'était bien balancé. Fait que le 3
ça t'a
heures,
pas dérangé,
Non, c'est ça. Je pense que le 3 heures, il est bien correct, là. Je pense que, comme tu dis, ils ont fait un peu comme ils voulaient. Puis je trouve ça intéressant quand même parce qu'il y a des trucs nouveaux, je pense, qui ont été faits dans ce film-là, qui n'ont pas été faits dans d'autres films. Fait que ça, je trouve que quand même, on se renouvelle quand même. On essaie de, un petit clin d'œil ici, un petit clin d'œil là, qu'il n'y avait peut-être pas avant. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool.
Au final, c'est peut-être ça qui aurait copié, tu sais, dans l'histoire.
Ouais, c'est ça qui aurait coupé en premier, c'est sûr. Ouais, sinon, on aurait perdu la compréhension.
Ouais, fait que donc, au final, tu sais, je pense que c'est bien qu'on l'ait mis jusque-là. Puis effectivement, ça passe vite quand même, outre le fait que tu peux plus bouger après le film parce que t'as mal au dos.
Ouais.
Mais sinon, tu sais, moi, j'étais prêt à ranger, puis là, tu sais, mon cou a souffert un peu. Mais c'est vrai que ça passe vite, tu sais, je veux dire. T'as pas l'impression que tu fais comme « Man, sauvez-moi de là, là ».
Non, c'est ça.
T'es juste genre « J'en prendrai encore », tu sais, « J'en prendrai encore » au final.
Oui. Oui, ben moi, je trouvais qu'à un moment donné, c'était complet.
Oui, à un moment donné, c'est complet, mais tu sais, tu dis genre, c'est correct, tu sais, j'en prends encore, c'est bon, fun, c'est divertissant, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de longueur, c'est ça que je veux dire, il n'y a pas vraiment de longueur.
Le rythme est super bon, ça, c'est vrai.
Le rythme est bon.
Ils ont vraiment le tour de faire mais je pense que ça, c'est dans les autres films aussi que j'ai vu, ça, c'est... Ils ont tout le temps le don de faire le
peut-être pas les anciens, mais...
Peut-être les plus récents.
Les deux dernières années, ça se passe plutôt bien.
Il y a peut-être les 10 dernières minutes à Manéo où que j'étais comme... Là, ils peuvent vraiment... Ils en ont rajouté un peu. Puis j'étais comme là, ils peuvent continuer à y aller, mais il y aurait eu une couple de places où ça aurait pu finir. Puis j'étais comme... J'aurais été quand même satisfait. Puis là, à un moment donné, je suis comme, ils rajoutent une autre scène. Ah, c'est cool, je suis content de l'avoir vu, la scène. Mais ils pourraient continuer de même pendant encore 30 minutes. Puis genre, ça serait encore, une autre scène qui a une mérite de vivre.
Ça,
mais à un moment
donné, c'était des modules qui pouvaient se rajouter.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est quand même bien ficelé. Moi, ça m'a pas...
Non, c'est ça, exactement.
Ça m'a pas achalé. Puis effectivement, après coup, en jasant avec toi, effectivement, mais ça m'achalait pas. J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet par rapport au film. On n'était pas sûr d'en parler ou pas en parler. Moi, j'ai envie d'en parler parce que je pense qu'il faut aviser quand même nos gens, ouais. nos auditeurs, de ce petit truc-là qui n'est pas nécessairement un problème, qui pourrait en être un pour certains fans mordus finis de l'infini. mais les films Marvel ont jusqu'à récemment, ouais. toujours ce qu'on appelle des en français, ça serait quoi? Les scènes d'après-crédit. On va dire ça comme ça. Les scènes après le générique de la fin qui servent souvent de teaser, de pont entre des films précédents et ce qui s'en vient. Ou le film courant et les films qui s'en viennent, notamment avec le chat à la fin de Captain Marvel. c'est particulièrement drôle. Mais ces scènes-là se retrouvent dans presque tous les films. Mais pas dans lui.
Ouais.
Mais ça, on le sait pas avant d'écouter tout le générique à la fin. C'est pour ça que je veux en parler, parce que je me dis, ça sert à rien de le faire rester les gens là, pendant 7 minutes à regarder un défilement de générique, puis absolument rien après, en étant déçu. Puis partez plutôt sur un bon...
sur une bonne note.
Sur une bonne note, le film était bon, tout ça. Puis moi, personnellement, dans la salle, mes notes, on est allé le voir ensemble,
oui.
Les gens ont vraiment ri quand ils ont vu que les lumières s'allumaient après, puis il n'y avait plus rien. Les gens ont ri parce que, tu sais, ils se sont fait avoir, là, tu sais, c'est ça. Mais ce qu'on m'a raconté de d'autres, c'est qu'il y a des gens qui étaient vraiment outrés, vraiment fâchés.
Les gens étaient fâchés.
Ben, c'est ça.
Il y a des gens qui étaient fâchés.
Des gens qui étaient fâchés, puis moi, pour vrai... j'ai pas envie de vous faire subir ça, chers auditeurs, fait que je vous le dis. Donc, il n'y aura pas rien après une fois que le générique est commencé, vous pouvez partir, là. Puis, c'est ça. Allez finir votre popcorn en marchant, s'il vous en reste. Quoi qu'après 3 heures, ça m'étonnerait. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est la dernière chose que je voulais parler. Maintenant, je vous laisse tout à fait librement donner vos appréciations du film.
En parlant de ça, en fait, moi, j'ai trouvé ça triste un peu qu'il mette rien parce que, ou qu'il joue pas avec. T'sais, si tu veux rien mettre, joue avec, fais quelque
ça.
Chose en disant il n'y en aura pas.
Un clin d'œil à Stanley peut-être qui est décédé.
Il y aurait
eu moyen. Là.
Parce que j'ai rarement vu autant de personnes rester jusqu'à la fin des génériques. Ils ont réussi à créer quelque chose. Puis je trouvais ça vraiment dommage que là, ils fassent comme... Je vous ai donné des bonbons pendant tout le film. C'était des bonbons pour les fans. Puis c'était des affaires que les fans comprenaient. C'était vraiment eux autres, le public cible.
C'est ça.
Puis à la
vrai.
Fin, ils font comme...
Rien, même pas un clin d'œil, même pas un salut, même pas un merci.
Moi, j'ai trouvé ça un peu plate, tu sais. Puis le monde partait un peu triste, même si, avant le début du générique, il était comme « Ah, c'était bon, c'était cool. »
Ah oui, il était fier,
Puis là, il partait un peu la tête entre les deux jambes en disant « Ben, voyons... »
La queue entre les deux jambes, d'habitude.
Oui, non, mais là, je voulais pas aller là. Moi, j'ai la tête. Voilà. mais c'est ça. Fait que je trouvais ça un peu dommage quand même qu'il ait pas saisi l'opportunité après tout ce qu'ils ont réussi à créer.
Peut-être pour sauver quelques minutes, quelques secondes du film déjà de 3 heures.
Puis il y a des parties avant le générique que j'aurais vu après le générique.
Absolument.
Et ça, ça aurait été justement le petit 10 minutes un peu. Il
aurait pu être là. Oui, oui.
Aurait pu être là. Puis il y a une petite partie là-dedans qui aurait pu être à la fin. Puis ça aurait été vraiment intéressant. Puis tout le monde serait parti en
sur une bonne note.
Sur une bonne note. Fait que moi, c'est ça. Moi c'est juste... Là, est-ce qu'on donne tout de suite notre note ou on fait...
Oui, en fait, ça pourrait être bien de donner notre note.
Ben moi, je donne un 8.5. Tu sais, c'est un solide film pour les fans. Si t'es pas un die-hard fan, mais tu connais un peu les super-héros, tu vas quand même pas t'emmerder. C'est quand même un bon film si t'as vu Infinity Wars. Mais si t'aimes pas super les super-héros, c'est peut-être pas le meilleur film de super-héros pour te faire accrocher. Puis c'est vraiment pour les fans, tu sais, mais sinon c'est un film qui est bien
fait. Sinon, faut que tu aies voir le reste.
C'est ça, exactement. Mais c'est un film qui est bien fait. Tu sais, je veux dire, je pense pas que tu peux lui donner une mauvaise note.
Non, c'est un bon film qui se tient en lui-même.
C'est un bon film qui se tient, qui te quitte.
Mais qui s'adresse à un public qui aime les super-héros.
Exactement.
Oui, absolument. Tout à fait d'accord avec toi. Mélina?
Moi, j'irais avec un 9 sur 10, en fait, aussi. Là, je pense que c'est vraiment un bon film, puis...
L'attente était justifiée.
Moi aussi, je donne un 9 sur 10. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le film. Je faisais des blagues tantôt. Je vous ai fait peur. J'ai dit que j'allais descendre le film, mais non. Donc, très, très bon film qui m'a donné envie, puis je pense à Mélina aussi, de nous retaper l'intégralité de l'univers, ce qui est à peu près complètement cinglé. Je regrette déjà d'avoir eu cette idée-là. On s'embarque pour très longtemps. Donc voilà, c'était notre critique de Avengers, le Endgame en français. Comment ça s'appelle?
Phase finale.
La phase finale. Merci beaucoup, François. « de retour à Ciné Brunch avec Jim Boulet, Mélina Lopez-Nadeau et François Genet. Et c'est bon, on finit de vous parler d'Avengers. Maintenant, on va vous parler dans une dizaine de minutes, on va parler du film Le Page au soleil à l'origine de Kanata. C'est moi qui l'ai critiqué pour vous. Et en même temps, on va pouvoir jaser de tout ce qui entoure ce scandale-là, mais on va appliquer ça, nous, au cinéma. Donc, tout ce qui est appropriation culturelle, puis ces affaires-là qui sont des polémiques actuelles au niveau médiatique et social. Alors, on parlera de ça plus tard dans l'émission. Mais en attendant, Mélina a vu pour nous un autre documentaire québécois. Visiblement, c'est la saison des films de super-héros et des documentaires. Et Mélina, tu as été voir pour nous le film Le Vieillage et l'Espérance.
Exactement. Donc, je vais vous lire tout de suite le synopsis pour commencer. Donc, quand le grand âge impose la déchéance physique et quelquefois mentale, y a-t-il moyen de conserver une attitude espérante face à la vie et ses mystères? C'est la question que veut confronter le projet du film documentaire « Le vieillage et l'espérance », en interpellant non seulement les spécialistes, les gériatres, gérontologues, psychologues et philosophes, mais d'abord et avant tout l'expérience vécue des personnes âgées elles-mêmes. Je trouve pas que la description rend vraiment hommage au film. Là. Quand j'ai lu la description, ça me donnait pas vraiment envie d'aller voir le film. Quand je la relis là non plus, je trouve que on réussit pas du tout à cerner l'essence puis la profondeur de ce film-là. C'est sûr que c'est un documentaire du cinéaste québécois Fernand Dansereau, donc qu'on connaît déjà quand même pour plusieurs trucs qu'il a fait, qui est rendu quand même à l'âge de 91 ans. Mais avant d'aller plus loin, on va écouter la bande-annonce.
Est-ce qu'il y a moyen de trouver un peu de sérénité quelque part face aux épreuves du grand âge puis face à la mort qui vient?
Ce qui est important pour moi, c'est aujourd'hui, ce que je suis encore capable de faire puis ce que je peux encore apprendre.
J'ai jamais pensé que je vieillirais.
Il faut se demander à tout moment, à tout instant, est-ce que je vis la vie que je veux vivre?
En vieillissant, je te dirais que j'ai le sentiment de franchir. Je ne sais pas si j'avance. Je n'ai pas l'impression d'avancer. J'ai l'impression que je franchis par le dedans de moi, vers la profondeur.
Donc, moi, je suis un matérialiste positif. Et donc, je crois à ce que je touche. T'es là, puis je te touche. Au-delà de ça,
où est-ce que t'as trouvé un peu de réconfort, toi?
À se coucher avec elle.
Je prends la joie. Je prends la douleur lorsque c'est la douleur. Je veux toute la vie. Je veux la vie entière.
Donc, on change de registre, hein, disons-le.
Définitivement, c'est ça. Donc, comme je le disais tantôt, là, le thème du documentaire, c'est vraiment une réflexion, c'est un questionnement sur le vieillissement. Donc, on va à la rencontre de vraiment plusieurs personnes. On pose des questions, mais on rencontre aussi des professionnels. Et c'est quand même intéressant parce que les psychologues et les philosophes vraiment réussissent à bien dire ce qu'ils veulent dire, à bien vulgariser, à donner des pistes de réflexion qui sont très intéressantes pour réfléchir sur ce thème-là. Puis tout ça, c'est entrecoupé d'un beau visuel de rivière, d'eau qui coule, de feuilles dans les arbres là, pour aérer un peu toutes ces réflexions-là puis mettre ça un peu en image. Donc c'est vraiment bien fait. J'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et c'est un documentaire vraiment que je vais conseiller vraiment à tout le monde. C'est rare que les documentaires, et je conseille ça à tout le monde, généralement c'est quand même pour des gens qui s'intéressent au thème.
Oui, puis là on aurait pu penser que ça s'adressait à un public plus âgé. Là.
Définitivement. Mais vraiment, je pense que il n'y a pas juste les personnes âgées qui peuvent avoir une certaine angoisse de vieillir parce qu'on va tous passer par là.
Oui, c'est un sujet universel au final.
Exactement.
Ces réflexions-là, on peut l'avoir à 5 ans comme à 99.
Tout à fait. Moi, depuis que je suis né, je vieillis en plus.
Ah, mon doux.
Tu m'apprends ça, en fait.
Et là, là, attention, une chance, j'étais pas cardiaque. Mon doux, ça m'a surpris, ça. Ça c'est...
Puis même à l'adolescence, moi, je me souviens à l'adolescence, début vingtaine, de vraiment... je sais pas, on dirait qu'on commence tranquillement à prendre conscience. OK, je suis plus un adolescent, je deviens une adulte, tout ça. Donc, je sais pas, moi, j'avais déjà des questionnements par rapport à ça, à cette période-là, vieillir, bon, la peur de la mort. C'est des choses quand même qui vraiment peuvent rejoindre tout le monde. Donc, je pense que chaque personne peut tirer quelque chose d'intéressant de ce film-là. Et encore plus parce qu'il y a tellement d'intervenants différents, on fait juste poser des questions à des gens, puis ils n'ont pas nécessairement tous la même vision. Et c'est ce qui me permet de croire que, bon, moi, il y a peut-être quelqu'un qui a dit quelque chose dans le film qui m'a beaucoup plus marqué, mais que, par exemple, François, tu vas aller voir le film et c'est complètement autre chose qui va te toucher. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce film-là peut vraiment réussir à toucher vraiment tout le monde d'une façon différente. Puis ça, c'est vraiment une des grandes forces du film. Parce que c'est un sujet qui est vraiment vaste, là. Je veux dire, on parle de vieillir et...
Ouais,
oui,
mais c'est vrai. C'est quand même vraiment vaste. Mais je trouve que le réalisateur, donc Fernand Dansereau, qui est quand même rendu à 91 ans, donc on sent qu'il
maîtrise... Oui, il est concerné par le... Oui, il est concerné par ce qui se passe, oui.
Exactement. Et il réussit vraiment à dégager, je pense, l'essentiel des propos que les gens disent, parce que faire un documentaire comme ça, on s'entend que c'est de nombreuses heures d'entrevue pour finalement aller sélectionner qu'une clip de 2 minutes ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Donc, il y a un gros travail de « bon, je prends l'information, qu'est-ce que je veux faire avec ça? » Donc, je trouve qu'elle est très bien présentée et qu'on réussit quand même à garder un certain fil conducteur dans le documentaire. Puis ça aussi, c'est intéressant. T'sais, on va pas là pour avoir des réponses, là. Honnêtement, il nous propose pas des réponses, vraiment, je trouve. Et ça, c'est intéressant. On nous propose plutôt des pistes de réflexion.
Mm-hmm. Oui, puis même lui-même conteste certaines pistes. J'ai vu le film, je me dévoile. Mm-hmm. J'ai vu... des fois, ça en est drôle parce que lui, il a pas peur, Fernand Dansereau, dans même le film, de donner son opinion. Mm-hmm. Ça, je trouve ça le fun. Des fois, il dit « Ah, moi, ça... la spiritualité, ça m'a pas aidé. »
C'est ça.
Oui. Non, mais c'est des moments même cocasses un peu dans le film, oui.
Oui, c'est ça. Comme tu dis, il donne son opinion et c'est ça. Effectivement, dans le film, ça se contredit. Donc, c'est vraiment comme une panoplie d'opinions, mais de pistes et réflexions. Puis au final, personne n'a vraiment la réponse ultime, là, et tout le monde vit ça de façon différente. Et d'avoir la part aussi de professionnels dans le domaine, ça l'amène aussi à un autre côté. Là, il y avait aussi des gens qui font de l'accompagnement en fin de vie, là, donc qui sont vraiment là.
Oui, qui font des témoignages aussi de gens qui sont sur le bord de mourir aussi.
Aussi,
là.
Oui, et c'est ça. Et des gens qui, entre le moment du tournage et le moment où on visionne le film, on sait qu'ils sont décédés. Ouais. Donc, tout ça amène aussi, je ne sais pas, une véracité au film aussi, donc au documentaire. Donc, je pense vraiment que ça peut plaire à tout le monde. Puis je pense vraiment que ça peut calmer des angoisses de plusieurs personnes, peu importe l'âge, parce que je pense que c'est tous, à un moment donné, quelque chose qui revient dans la vie. J'étais pas particulièrement enthousiaste à l'idée d'aller voir ce film-là.
Disons que le thème nous donne pas envie nécessairement d'y aller parce que c'est confrontant comme thème. C'est des choses qu'on veut
exactement.
Pas penser. On
sait qu'on va
ça.
Sortir de là chamboulé, j'imagine. C'est en plus.
Ouais.
C'est ça. Mais je trouve que, je sais pas, la description m'appelait pas tant, la bande-annonce non plus. Mais finalement, je trouve que c'est vraiment... c'est vraiment fort, c'est vraiment bien fait. On sent qu'il y a de l'expérience derrière le montage de ce
Quel
film-là.
Quel beau montage. Moi, j'ai vraiment trouvé très classique, mais très, très beau montage.
Oui,
poétique.
L'information, tout se mélange bien, tout se mêle bien. Donc, on n'est pas noyé dans trop d'informations.
C'est intègre. On sent pas qu'on... Oui, un point de vue, mais on sent pas qu'on essaie de nous forcer dans
Exactement.
Une direction ou d'une autre.
Okay, c'est
ça c'est intéressant.
Aussi, ouais.
On a comme la liberté de choisir ce qui nous plaît là-dedans. Ouais. Puis lui, il a pas peur de dire ce qu'il pense par rapport à ça, mais c'est d'une façon respectueuse. Puis,
Ouais.
Un excellent film.
Vraiment, je le conseille vraiment à tout le monde. Là.
Et tu lui donnerais combien?
Je lui donnerais un 8 sur 10.
Est-ce que tu penses que c'est un film qui va bien vieillir?
Non,
mais parce que est-ce que c'est très actuel, tu sais, ou c'est
non,
très
je pense que c'est intemporel.
Ça va être intemporel, ouais.
Ouais. C'est des pensées. Il y en a tellement peu de films sur ce sujet-là
que c'est important quand même de se poser ces questions-là.
Ouais.
Puis ça peut être intéressant justement, comme tu as dit, tout le monde se pose ce genre de questions-là, donc de voir ça en image, ça peut être réconfortant ou confrontant. Ou les deux en même temps.
Oui,
absolument.
Mais je le vois plus comme étant apaisant que confrontant, mais j'en conviens que pour certaines personnes, peut-être, ça peut être plus confrontant.
Oui. De voir la réalité en face. Mais quand même, c'est...
Mais je trouvais que c'était comme apaisant, c'était doux, c'était... Je sais pas, c'est comme prendre une grosse doudoune, là. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien faire ça, m'enrouler dedans.
Mais moi, c'est une des premières fois que je vois beaucoup de gens pleurer pendant un film.
Aussi.
Mais beaucoup de gens dans la salle. Un moment précis que je dirais pas, mais... Et on sent qu'on a touché le spectateur, là, grandement.
Wow. C'est vrai, ça.
Et moi-même, j'étais un peu ému à ce moment-là.
Combien tu lui donnes? Mais quoi que je dirais que dans Avengers,
que
8
sur
10, j'ai entendu
là,
beaucoup de monde pleurer.
Moi, je donnerais un bon 8.5. Ouais. Enfin, bref. Donc, en tout cas, mais merci. Mais non, mais le film s'appelle Le Vieillage et l'Espérance. Donc, voilà, je vous recommande aussi d'aller voir ce film comme Mélina. Merci beaucoup, Mélina.
Merci.
Oui, le soleil, parce que j'étais voir pour vous le film Le Page au soleil, à l'origine de Kanata. Vous trouverez sans doute que le...
Le lien est magique quand même. C'est
tellement incroyable.
Quand même, t'as un talent, Jim, pour choisir une musique appropriée. À
Ouais, c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec ton affirmation. dans tous les cas, donc, Le Page au soleil, un documentaire québécois d'Hélène Choquette qui, en fait, comme son titre l'indique, parle de l'origine de la pièce de théâtre Kanata créée par Robert Lepage. Et on se souvient de toute la polémique médiatique qui entoure cette pièce-là. Bon, écoutez, je pense qu'avant d'aller plus loin, j'irai tout de suite écouter la bande-annonce. Ça me semble tout à fait d'à propos pour commencer la chose.
À l'été 2018, Kanata, une création théâtrale du Théâtre du Soleil de Robert Lepage, déclenche une polémique. Lepage au Soleil retourne à l'origine de ce spectacle.
On est plus 35 en scène.
Dans le spectacle, à peu près tout le monde joue un personnage qui n'est pas de sa culture, qui ne parle pas sa langue maternelle.
Je suis arménien. Mon grand-père était un rescapé du génocide. Donc, quand je vais jouer une tragédie d'un enfant orphelin amérindien, c'est ma propre histoire de mon grand-père, des Arméniens que je vais jouer.
Et c'est ça, le théâtre. C'est aller vers l'autre en s'appropriant son corps, sa culture, son costume, et se reconnaître dans l'autre.
Alors voilà, vous aimerez ou pas ce que vous venez d'entendre. Dans tous les cas, c'est la bande-annonce du film Le Page au soleil, à l'origine de Kanata. On découvre à travers ce film-là la troupe de Théâtre du Soleil, troupe européenne qui depuis 54 ans est dirigée par Ariane Mnouchkine, mais qui pour la première fois en 2016 sera entre les mains de Robert Lepage, avec qui les artistes créeront la pièce Kanata. Ils l'ont créée ensemble, c'est ça qui est quand même intéressant.
C'est quand même intéressant, c'est un processus collaboratif,
ça veut dire. C'est, oui, oui, c'est surprenamment, et même plus que prévu, Robert Lepage l'a dit à un moment donné dans le film, il s'est rendu compte que tout le monde faisait tout. Tout le monde faisait des décors, tout le monde faisait de la création de costumes, du maquillage. Et ça, en tout cas, je détourne le sujet, là, mais bref. Donc, ça se veut une œuvre qui, en fait, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, rencontre les cultures européennes et même mondiales, mais avec le contexte, les thèmes, les enjeux qu'ont vécu les Premières Nations du Canada sur une période de 200 ans. On rencontre 36 comédiens, puis d'une dizaine d'origines différentes, plus qu'une dizaine même d'origines différentes. Il y a des Maghrébins, des Sud-Américains, des Asiatiques, des Européens, et qui réalisent, en fait, à travers leur découverte de la pièce, la création de la pièce et les rencontres qu'ils font pour créer cette pièce-là, que l'histoire des premiers peuples amérindiens, ben, ils se rendent compte, en fait, qu'il y a des ressemblances avec leur propre culture, avec des événements qu'ils ont vécu dans leur histoire, et parfois de façon métaphorique, parfois concrètement, comme on l'entendait avec le monsieur, fils de quelqu'un qui est survivant du génocide. Bon, évidemment, on connaît la fin de la saga qui entoure la production de la pièce de théâtre qui a inspiré ce film-là. Ben, suite à des centaines de réactions médiatiques contre la pièce, elle a été presque entièrement annulée avant même que son premier spectacle sorte. Et évidemment, on dit du côté d'Ex Machina, qui est la compagnie de Robert Lepage, que la raison pourquoi on a annulé la pièce, c'est parce que les financiers, les producteurs sont sortis du milieu, probablement par peur que ça soit pas rentable à cause de la mauvaise presse qu'il y avait autour du film. Donc, on reprochait à Robert Lepage et son organisation Ex Machina de faire ce qu'on appelait déjà avant, mais qu'on a appris à connaître plus internationalement, le concept de l'appropriation culturelle. Donc, un terme qui a été extrêmement plébiscité pendant le scandale qui entoure la pièce Kanata. On reprochait à Ex Machina et Robert Lepage de faire une pièce sur des Autochtones sans comédiens autochtones. Évidemment, comme toute polémique, le sujet divise, hein, ça va de soi. Et dans une ère où j'ai l'impression que j'ai le droit de le dire, on est de plus en plus conscientisé au respect de l'autre et de la différence et de la diversité des genres, des orientations, des valeurs. Ben, pourtant, on ne peut plus tout dire et encore moins dire tout comme on voudrait le dire. Et certains, évidemment, vont crier au déclin, de la liberté d'expression, à la liberté artistique, au déclin de la liberté artistique. Certains diront qu'on a le droit... qu'on a le droit de parler, mais qu'on doit de plus en plus marcher sur des œufs quand on dit ce qu'on pense, parce que la force du jugement populaire, du jugement sur les médias sociaux puis tout ça, ben, est plus forte que jamais. Et sur le fond d'une apparente injustice sociale, on peut se faire justice soi-même et avoir un réel impact si on est écouté ou si on est lu par des bonnes personnes, ou en tout cas des milliers de personnes parfois. Mais là, je m'égare totalement. On va en parler de tout ça. Cela dit, on va en parler dans quelques minutes, parce que je pense que la sortie du documentaire, c'est un bon prétexte dans ce cas-ci pour discuter ces enjeux-là en lien avec le cinéma et la création artistique. Mais avant toute chose, je vais vous parler du film quand même, je suis là pour ça. Je vais vous dire que quand j'ai vu arriver ce film-là, j'avais un petit peu peur que ce soit une espèce de grosse apologie de Robert Lepage, une tentative pure et dure de justifier ce qui avait été fait et de défendre la pièce purement. Honnêtement, je pense que le résultat de la pièce, en fait, le résultat du film, c'est un peu ça, mais le film en lui-même ne va pas là directement. C'est plutôt le résultat d'apprendre à connaître les gens qui sont autour de ça qui peut donner cet effet-là. C'est plutôt un making-of de la pièce Kanata, en fait. Depuis sa création, on voit Robert Lepage diriger des acteurs, organiser la discussion entre les gens. C'est intéressant du point de vue créatif de voir comment ça se passe. Mais ce qu'on voit le plus dans le film, c'est cet esprit de réflexion-là, comme un grand forum, les gens peuvent donner leur point de vue, proposer des choses. Chaque comédien a un rôle au sein du processus de création et d'écriture de la pièce, et pas seulement dans la présentation, donc au moment de jouer, mais aussi dans tout ce qui entoure la création des personnages, etc., etc. On voit des inspirations naître avec des rencontres avec des Autochtones, parce que oui, il n'y a peut-être pas d'Autochtones qui étaient comédiens dans la pièce directement, c'est une troupe européenne, mais il y a des rencontres avec des survivants autochtones, avec des gens qui ont vécu la prostitution, la drogue, le viol, un paquet de trucs. C'est assez fascinant. Une dame, principalement, j'ai malheureusement oublié son nom, mais une femme qui a tout vécu, les pires drames imaginables, et qui raconte son histoire à la troupe avec une spiritualité puis une intégrité incroyable, et elle touche les gens. On a la chance, juste en voyant ce film-là, de pouvoir assister à cette rencontre-là, à ces témoignages-là. Puis ça, en lui-même, ce fait-là justifie, à mon avis, d'aller voir ce film-là. Si vous êtes intéressé à la question autochtone, juste pour ce petit morceau-là du film, ça vaut la peine. C'est pas un film de Robert Lepage, je veux clarifier les choses, là. C'est pas produit par lui. Bon, évidemment, il y a une certaine ligne éditoriale, c'est un documentaire, c'est un point de vue, mais évidemment, la réalisatrice Hélène Choquette, qui a suivi la troupe dès le début, on sent que pour elle, ça choque. C'est choquant de voir mourir une pièce comme ça, en provenance de gens qui font des commentaires, qui n'ont pas vu la pièce, et de voir que ça a un effet destructeur sur cette pièce-là. On sent que ça la dérange dans son montage.
Oui, parce qu'on le voit un peu en direct. Dans le fond, si on commençait à filmer avant que tout ça, en même temps que la pièce s'écrit, fait qu'on les voit évoluer au fur et à mesure de la polémique.
Mais c'est juste avant la sortie de la pièce que la polémique est sortie, là. Vraiment pas longtemps avant que ça commence.
Mais il est encore en train de filmer.
On sent qu'il y a un début de polémique qui commence durant le film, mais c'est très, très, très primaire, là.
Okay.
On voit pas ça directement. Après avoir vu tout le contenu du film, parce qu'il y a pas vraiment de défensive durant le film, il y en a un peu, mais indirectement, mais les dernières minutes du film nous montrent à l'écrit, là, des commentaires, c'est lu par une narration, des commentaires qui ont été écrits par des gens sur les médias sociaux, d'un commentaire désobligeant ou négatif sur la production. Et ça, c'est ça la conclusion du film. On nous montre ça à la fin.
Donc, on n'aborde pas tant la polémique en tant que telle.
Non, on ne l'aborde pas, en fait. C'est comme voilà. Je vous dis, c'est vraiment, on nous montre...
C'est un making-of de la pièce.
De la pièce. On voit comment ça s'est fait.
Ça fait partie de l'histoire de la pièce.
Ça fait partie de l'histoire de la pièce. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais on apprend, on s'attache énormément au personnage. Et c'est ça qui fait qu'après avoir vu la fin, on voit la ligne éditoriale apparaître, parce qu'on a envie de prendre la défense de la pièce, parce qu'on voit tous ces gens-là qui ont vécu tellement d'émotions, qui se sont donnés à apprendre une culture qui n'est pas la leur à la base. Et là, on voit des commentaires de gens qui n'ont pas vu la pièce, puis ça crée un biais dans nous négatif à ce sujet-là. Mais là, je ne veux pas parler trop longtemps, je veux qu'on jase de tout ça. Rapidement, je vous dis que je donne un 7,5 sur 10 à ce film-là. C'est un peu long à mon goût, pour être tout à fait honnête. Ça aurait pu être réduit légèrement. Sinon, choix artistique, musique un peu redondante à mon goût, type de montage un peu trop télévisuel. Bref, des choses que j'aime moins, mais que, le sujet est là, c'est un documentaire. Je pense qu'on aime rencontrer les comédiens qui sont là-dedans, sont venus de partout. C'est agréable de voir ces mélanges de cultures-là. Le documentaire s'appelle Lepage au soleil, à l'origine de Kanata. Et maintenant, parce que tout ça pour ça, mon Dieu, j'ai parlé tellement longtemps, tout ça pour arriver à ce sujet-là. la discussion que j'aimerais qu'on aille, en fait, parce qu'on a encore un peu de temps, j'aimerais qu'on jase un peu de ces enjeux-là. Pas nécessairement au niveau de Canada, de Kanata et Robert Lepage, là, mais plus en général, parce qu'il y a une transformation intéressante au niveau cinématographique. Je pense qu'au cours de l'histoire, on a toujours fait des films qu'on n'aurait pas pu faire avant. Moi, c'est ma vision. Tu sais, des choses qui n'auraient pas passé dans les années 60, par exemple, ou dans les années 50, et qu'on peut faire.
Et vice-versa. Des choses qui se faisaient dans les années 50 qui ne passeraient plus aujourd'hui.
Je dirais, c'est cette tendance-là qui m'intéresse en ce moment. Je me rends compte qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire aujourd'hui, ou qu'on ne peut plus mettre dans un film aujourd'hui, qu'on pouvait il y a 10 ans.
Ouais.
Et ça, c'est spécial. Et ça, c'est vraiment spécial. Je ne dis pas que c'est bon ou pas bon, mais je pense que c'est unique. Ça, c'est pour moi. Bon, ça s'est déjà fait. Vous avez des films racistes au début des années 1900. Clairement, on ne peut plus faire ça aujourd'hui, puis c'est compréhensible. Mais là, il y a une forme de... on peut avoir l'impression que certaines choses sont pas censurées, mais ne passeraient plus bien, ne seraient pas politically correct, même si c'est des opinions différentes. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais vous entendre un peu sur ce concept-là. Moi, je suis curieux. Qu'en pensez-vous?
C'est pas un sujet qui est simple. Hein?
Ah! Non, là, là. C'est pas un sujet qui est simple.
On sent qu'on est en train de marcher sur des œufs et créer une omelette présentement, mais...
ouais.
Non, mais c'est ça. Je trouve que c'est un sujet un peu spécial parce que, je veux dire, l'appropriation culturelle, puis ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a plus le droit de dire, je veux dire... Il y a des, je veux dire, le théâtre, ça reste à la base de jouer quelqu'un d'autre.
C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans la bande-annonce. Oui.
OK, ouais, ben c'est oui. Ça. C'est déjà à la base, le but d'un acteur, c'est jouer quelqu'un d'autre. Après ça, on est toujours, quand on est un acteur, on est toujours jugé sur notre apparence.
Oui.
On est toujours jugé là-dessus pour savoir ce qu'on va être capable de donner l'impression qu'on est ce personnage-là au public.
Oui.
Si on a une face de méchant... On a beau vouloir jouer un gentil, on a une face de méchant. Je veux dire, rendu là, ça fait partie de ça. Fait que je pense que, tu sais, il y a un côté de dire un peu, si t'es capable de donner le personnage, t'es capable de le rendre, il y a un côté de la création qui dit, ben, c'est correct, tu sais. Fait que, il y a le côté de dire, ça fait partie des... Puis encore là, c'est des pensées que t'as, puis qui continuent continuellement à changer, à se modifier. Puis tu sais, c'est difficile d'avoir une opinion qui est claire, fixe, nette et précise, puis que tu dis qu'il changera jamais. C'est quelque chose, je pense, qui évolue constamment, puis peut-être que demain, je vais me contredire, mais tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment touché à cause de ça, justement, tu sais. C'est rendu là, il y a des personnages qu'on a toujours vus blancs, que là, c'est des noirs qui les jouent, parce que... Puis c'est correct, tu sais, puis je pense qu'il faut que ça arrive aussi, tu sais. Je veux dire, que d'avoir un James Bond noir, je veux dire, pourquoi pas, tu sais.
Moi, mais c'est ça, mais je veux pas empêcher Mina de parler là-dessus, mais je veux juste ouvrir une parenthèse, parce que là, on dit avoir un James Bond noir, ça dérange pas. Moi, pour être tout à fait honnête, ça me dérangerait pas non plus. Cela dit, là, il va y avoir un film historique sur Louis XIV qui s'en vient, interprété par une personne noire, et ça me dérange.
Ouais, ben.
Donc, pourquoi ça me dérange? Parce que c'est un film historique, c'est basé sur des faits,
mais en fait,
on n'est pas dans la fiction.
C'est encore le côté visuellement. Le côté visuel te dérange parce qu'il est censé jouer Louis XIV, puis Louis XIV, visuellement, il ne ressemblait pas à ça.
Mais je ne sais pas si c'est tant visuellement que culturellement, parce que pour moi, ça m'affecte, ça laisse croire qu'à cette époque-là, il n'y a pas de racisme. Ça laisse croire qu'à cette époque-là, un noir pouvait être roi. Ça me dérange parce que c'est faux, c'est une déformation de l'histoire, et je pense honnêtement pas que ça rend hommage à aucune culture, à aucun peuple de cette époque-là.
Ça sert personne.
Je pense que ça sert personne, puis je pense que les mauvaises choses du passé, il faut s'en rappeler, il faut taper sur le marteau, sur le clou, pour qu'on s'en souvienne, pour pas répéter ces erreurs-là, puis je pense pas que de faire un film historique qui déforme l'histoire pour des raisons politically correct de 2019, c'est une bonne chose. D'un autre côté... je sais pas ce que vous en pensez, mais de l'autre côté, dans la fiction et dans le théâtre, ça me dérange absolument pas. Tu vois, moi, ça me dérange pas que, comme dans la pièce Kanata, que ça soit un maghrébin ou un irakien qui joue un rôle d'un aristocrate anglais. Ça me cause aucun problème parce que c'est une fiction. Parce que c'est imagé.
Est-ce que ça serait aussi le côté de dire le théâtre, c'est une pièce qui va vivre avec plusieurs acteurs, tandis qu'un film, c'est un one-time, c'est figé dans le temps. Donc, l'acteur que tu vas prendre là, c'est vraiment quelque chose qu'il va représenter, tandis que l'autre va peut-être être joué au secondaire par des kids, puis ça va être n'importe qui. Fait que tu sais, il y a ce côté-là aussi, je pense, qui dérange
moins. On s'approprie plus facilement. Ouais. Mm-hmm. J'aimerais entendre Mélina, parce que le temps nous file entre les doigts. Qu'en penses-tu?
Je sais pas, il me reste comme une minute pour parler, fait que je pourrais pas vraiment...
Gaspille pas ta minute à dire qu'il te reste une minute. Oui.
C'est ça. Ben, je pense qu'effectivement, je pense qu'il y a une grosse nuance entre les films historiques puis les fictions et les films inspirés d'histoire, parce que souvent, après ça, comme on pense que les films historiques représentent la vraie histoire, puis après ça, ce qu'on enregistre comme étant la vraie histoire, c'est ce que le film raconte et non pas ce qui s'est vraiment passé. Fait que c'est sûr, mais je pense que c'est tellement touché que ce que je dirais, c'est que c'est du cas par cas et que ça dépend tellement d'un paquet de facteurs, ça dépend de qui est impliqué, ça dépend d'où c'est fait. Je veux dire, on a vu récemment un film sur une femme écrivaine française qui est un film qui était entièrement en anglais, joué par des acteurs anglophones. C'était un peu bizarre, on s'entend, tu sais.
Oh oui, tout à fait.
Mais il y a plusieurs volets. Il y a la question de qui joue, il y a la question de la langue, il y a la question de où ça se passe. C'est vaste, c'est compliqué, puis je peux pas m'exprimer en si peu de temps sur ça.
Moi non plus, et je pense qu'on devra continuer cette discussion-là à une autre... Il y aura certainement d'autres raisons de parler de ça. Oui. Malheureusement, on n'a plus de temps déjà, c'est déjà fini. Merci à tous d'avoir été là. Merci à nos auditeurs. Merci François, merci Mélina. C'est déjà tout pour Cinébrunch cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 11h, même heure, en rediffusion le mardi. Et sinon, sur notre site web cinébrunch.com. À la semaine prochaine, tout le monde.
Bonne semaine.
Bonne semaine.